Derrière les chiffres, il y a beaucoup de gens, notamment les personnes en situation de handicap, mais c'est quand même important de bien comprendre comment se dessine la réalité. Et pour ça, il faut quelques enquêtes. Rappelons que l'enquête canadienne sur l'incapacité de 2012 et ses nombreux volumes est maintenant disponible. C'est l'OPHQ, l'Office des personnes handicapées du Québec, qui nous le rappelle. Donc, on va s'attarder à ça et pour y arriver, Lucie Dugas, conseillère experte à l'évaluation et à la recherche de l'Office des personnes handicapées du Québec, l'OPHQ, est avec nous. Bonjour, Madame Dugas.
Oui, bonjour.
Bonjour, merci d'être là.
Oui, ça fait plaisir.
Pour peut-être comprendre ou avoir un surcroît de compréhension de la réalité des jeunes, des personnes qui sont aux études, des chercheurs, chercheuses d'emploi, il faut appeler Laurence Pérousseau, directrice générale de l'ex-ACEPS. En fait, vous avez tout le temps entendu ACEPS, mais on vient de changer de nom. Donc, on va au moins saluer Laurence Pérousseau. Bonjour, Laurence.
Oui, bonjour, Benoît. Écoute, je veux juste te dire que justement, on est encore ACEPS parce qu'on fait ça compliqué d'apprendre une autre affaire. C'est les mots à l'intérieur de ACEPS qui ont changé.
Donc, les nouveaux mots sont Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire.
Oui, ce qui donne encore ACEPS.
Et qui représente un peu mieux ce que vous défendez depuis des années.
Exact.
Bon. Alors, si vous permettez, Laurence, on va d'abord s'adresser à Mme Dugas, parce que c'est chaud, c'est 8 volumes ou à peu près. Enfin, il y en a qui restent à publier encore. Donc, Lucie Dugas, parlez-nous d'abord de l'ampleur ou de l'importance de cette enquête canadienne sur l'incapacité.
L'enquête canadienne sur l'incapacité, c'est une enquête qui est réalisée par Statistique Canada, qui est réalisée aux 5 ans habituellement. Donc, la première, c'est en 2012. Il y en a une qui est en cours de collecte en 2017. Donc, on va être capable, dans quelques années, d'avoir aussi une évolution de la situation des personnes handicapées. C'est une enquête qui vise tous les adultes de 15 ans et plus qui vivent en ménage privé. Au Canada au moment du recensement de 2011.
Donc, ça veut dire que les gens en CHSLD ne sont pas considérés dans cette étude?
Non, malheureusement, les gens qui vivent en institution ne font pas partie de l'enquête, comme aussi les personnes qui vivent dans les autres hôpitaux, en prison, mais, par exemple, aussi les gens qui vivent des Premières Nations ne sont pas inclus.
Okay.
Mais c'est quand même près de 97% de la population qui est visée par l'enquête.
Je me pose la question, vous qui êtes à l'OPHQ, qui voulez défendre, ou à tout le moins qui représentez les intérêts pour tous ces groupes, même ceux qui ne sont pas à la maison, au domicile, est-ce qu'il y a des moyens qui sont prévus pour comprendre ce que vivent comme réalité les personnes en CHSLD, les personnes autochtones en situation de handicap ou autres? Est-ce qu'il existe d'autres études parallèles?
Pour les Autochtones, il y a peu de données qu'on peut suivre pour particulièrement au niveau des personnes avec incapacité.
Mm-hmm.
Pour la situation dans les CHSLD, il y a quand même des données administratives du ministère de la Santé qui nous permettent peut-être un peu de suivre.
Entre vous et moi, souvent, ça prend des demandes d'accès à l'information, là, pour l'avoir déjà fait moi-même. Mais est-ce qu'il existe quelque chose d'aussi systématique, accessible pour le grand public?
Je crois pas, non. C'est vraiment des analyses. On fait des demandes auprès du ministère pour avoir accès à certaines données qui nous permettent de suivre certains indicateurs au niveau de la population des personnes qui vivent en CHSLD. Mais il n'y a pas d'enquête qui nous permet d'avoir les mêmes données que celles qu'on peut avoir avec l'enquête canadienne sur l'incapacité.
Parfait. Il faut dire que cette enquête-là, c'est un véritable paquebot. Hein? On a beaucoup d'informations collectées. Les gens pensent que ce n'est pas important, là, mais c'est pas mal fondamental comme étude. D'ailleurs, ça faisait un moment qu'on n'avait pas accès à des données. C'est quand la dernière fois où on a des données aussi précises sur l'incapacité au Canada?
Au Canada, ça a été la dernière enquête qui a été réalisée. C'est l'enquête, elle a changé de nom, mais c'est un peu la même enquête. La méthodologie était différente, mais c'était l'enquête sur la participation et les limitations d'activité
qui
a été faite en 2001 et en 2006.
C'est ça.
Et d'ailleurs, l'Office, avec l'Institut de la statistique du Québec, on avait publié un document qui présentait les résultats de ces deux enquêtes-là qu'on appelait « Vivre avec une incapacité au Québec ».
Oui, effectivement. Puis pour ceux comme moi qui ont été très intéressés par la question, c'est des données qui datent, mais qui sont si importantes, qui nous permettent de voir, bon, si l'incapacité peut amener à des obstacles à l'inclusion, à la participation sociale, comme vous le dites, que ce soit au travail ou à l'école. Mais enfin, c'est important d'avoir ces données-là. Là, on a des belles données. Puis il y en a d'autres qui vont venir. Hein? Les 8 tomes ne sont pas encore tous publiés.
Non, ça va venir d'ici la fin du printemps. On a l'intention de tous publier les 8 volumes de la collection.
Bon.
Là, actuellement, aujourd'hui, on en a 3 qui sont mis en ligne, rendus disponibles sur le site de l'Office.
Mm-hmm.
Et les 5 autres vont suivre au courant d'ici la fin du printemps, je dirais en juin à peu près.
Donc, vous travaillez fort pour rendre ça disponible et accessible aussi?
Toujours.
Oui, bon. Écoutez, venons maintenant aux faits saillants, parce que là, à part quelques gens là, qui ont pataugé dans les statistiques comme moi et d'autres, on n'a pas tant de fun que ça. Si vous permettez, quels sont les faits marquants qui ressortent de cette enquête canadienne sur l'incapacité, Mme Duca?
On peut voir en 2012, le taux d'incapacité au Québec est d'environ 10 %.
Mmh.
Donc, c'est une personne sur 10 au Québec qui a une incapacité.
OK. C'est important quand même, mais c'est un peu moins que l'éclave, là, une autre enquête. Mais donc, le chiffre magique au Québec, c'est 10 %.
Ben oui, c'est ça. L'éclave, c'est ça. C'est une enquête intéressante qui a été réalisée par le ministère de la Santé en collaboration aussi avec plusieurs ministères, dont l'Office.
Mm-hmm.
Je dirais que ces deux enquêtes-là sont vraiment des bonnes enquêtes. La différence, c'est que c'est la méthodologie qui fait en sorte que l'éclave a été identifié plus de personnes qui ont une incapacité légère que des enquêtes comme l'EPLA et l'ECI.
Donc, l'ECI, pour le rappeler, c'est l'enquête canadienne sur l'incapacité, celle dont on parle. Donc, on s'intéresse plus aux gens qui ont déficience modérée ou sévère, donc qui vivent de graves situations d'handicap, là.
Oui, bien, en fait, dans l'ECI, c'est ça, c'est la méthodologie qu'on utilise, c'est des questions d'identification de l'incapacité qui permettent d'identifier 10 types d'incapacités. On a, par exemple, des gens qui ont une incapacité liée à la vision, à l'audition, à la mobilité, flexibilité, à la dextérité, à la douleur, à l'apprentissage, au développement. Donc, si on parle de TSA, autisme psychologique et à la mémoire.
OK.
Puis, les questions nous permettent vraiment d'identifier des personnes. Quand on parle d'enquête comme ça, c'est vraiment des modules de questions qui sont très bien construites. Ces questions...
Oui, il y a beaucoup de sociologues embauchés, etc.
Il y a des grosses équipes de Statistique Canada qui travaillent là-dessus, ce qui fait qu'on peut dire que les personnes qui sont identifiées dans ces enquêtes-là, c'est des gens qui ont des incapacités significatives et persistantes. C'est sûr que des gens qui ont des incapacités plus légères, qui peuvent être plus ou moins sujettes à rencontrer des obstacles.
Mm-hmm.
Et en fait, c'est des gens qui sont potentiellement toutes des personnes qui peuvent être en situation d'handicap.
Bon, excellent. Deux faits importants sur la scolarisation et le travail. J'aimerais beaucoup que vous nous parliez de ces deux aspects-là pour qu'on puisse ensuite aller voir avec Laurence si c'est ça qui se valide sur le terrain. Donc, les personnes avec incapacité qui sont moins scolarisées, qu'est-ce que nous apprend l'enquête là-dessus?
Bien, c'est ça. C'est comme je dirais, c'est pas nécessairement nouveau, là, parce que les enquêtes précédentes, même, elles sont pas comparables depuis, je dirais, deux décennies, là.
Mm-hmm.
Démontre toujours qu'il y a un retard en termes de scolarisation. Les personnes avec incapacité sont généralement moins scolarisées que les personnes sans incapacité. Et on le voit depuis de nombreuses années. L'enquête canadienne sur l'incapacité révèle le même constat. En fait, ici, on voit qu'au niveau global, c'est les personnes avec incapacité, la population, il y a 35% qui font sans diplôme d'études secondaires. Si on compare avec les personnes sans incapacité, c'est 20%. Donc, il y a un bon écart. Il y a moins de personnes aussi avec incapacité qui ont un certificat ou un diplôme d'études universitaires.
Mm-hmm.
Comparativement aux personnes sans incapacité.
Donc c'est encore des grandes différences avec la population dite sans incapacité.
Oui.
Mais est-ce qu'on voit une amélioration de la scolarisation chez les personnes handicapées depuis les dernières années?
On avait, avec l'EPLA 2001 et 2006, on avait pu faire un constat où on avait remarqué une évolution favorable du profil là, de scolarisation des personnes handicapées.
Mm-hmm.
Malheureusement, avec la nouvelle enquête, on peut pas comparer avec les enquêtes précédentes.
Okay.
Mais avec la prochaine, on va être capable de commencer une nouvelle série là, pour être capable de voir vers où ça va, si ça s'améliore ou ça stagne ou ça se détériore.
Donc, soyons clairs, ça, c'est l'effet Harper, parce que pendant longtemps, il y a eu la coupe du du questionnaire long, puis au niveau des statistiques, il y avait moins de ressources, de moins d'enquêtes de déployer. Hein, c'est ça, hein?
Tout à fait. C'est exactement au même moment qu'il y a eu l'abolition du recensement long.
Voilà. OK.
Et ça a disparu dans le même...
Vitement, en peut-être une minute, qu'est-ce qu'il y aurait d'important à dire sur l'inclusion au travail? Est-ce que ça va mieux?
Il y avait eu une petite amélioration aussi, je disais, en 2001-2006, mais on observe encore un énorme écart dans le taux d'emploi des personnes avec incapacité comparativement au reste de la population. Donc, il y a 39 % des personnes avec incapacité qui sont en emploi.
Ah oui.
Comparativement à 72 % des personnes sans incapacité. Donc, on voit qu'il y a vraiment encore un écart très important.
Donc, ça se maintient. Laurence Pirousseau, directrice de la CEPS, qui travaille pour les étudiants en postsecondaire, vous relevez souvent ça, je pense, que les étudiants, après leurs études, les étudiants avec incapacité, ont de la difficulté à intégrer le marché du travail. Comment vous réagissez?
Ben moi, je trouve que, oui, l'écart est réel et c'est bien les chiffres, ça nous montre qu'il y a un problème. Mm-hmm. Mais au-delà de ça, les chiffres ne nous disent pas comment régler le problème.
Oui, bien sûr.
Donc, nous, on remarque que les étudiants en situation de handicap ont de la difficulté à intégrer le marché du travail pour plusieurs raisons. Premièrement, beaucoup d'emplois ne sont pas dans des endroits accessibles.
Bien sûr.
Ça, c'est de base. Après ça... les employeurs sont réticents à engager une personne en situation de handicap parce qu'ils connaissent mal, les étudiants eux-mêmes connaissent mal les ressources qu'ils peuvent aller chercher, genre les contrats d'intégration au travail, tout ça, qui peuvent influencer le choix de l'employeur. Et troisièmement, il y a quand l'employé est en poste, il peut décider de divulguer son handicap s'il est invisible ou pas.
Bien sûr.
Donc, s'il ne le divulgue pas et qu'en cours de mandat, il ne fait pas l'affaire, ben l'employeur peut le renvoyer puisque il n'avait pas déclaré son handicap, donc il n'avait pas reçu d'accommodement.
Mm-hmm.
Donc, il y a tout ça aussi. Il y a la déclaration, la malformation des employeurs qui ont encore des réticences à engager des personnes handicapées alors qu'ils devraient pas.
Ben voilà.
Avoir peur.
Ben oui, voilà. Mais donc, ces informations-là, pour savoir, parce que vous accueillez des plaintes à la CEPS,
oui.
Ou encore vous travaillez avec une table de concertation et des experts qui vous ramènent ces informations-là. Mais le seul moyen d'avoir accès à ces informations-là, c'est pratiquement la Commission des droits de la personne. C'est quand
exactement.
On porte plainte. Puis c'est là, il faut le dire, là, aux gens qui nous écoutent, j'ai pas les chiffres devant moi, mais la Commission des droits de la personne a comme premier motif de discrimination le handicap, et le premier lieu où il y a de la discrimination, c'est le travail. Donc, en tout cas, de ce côté-là, ça a l'air de confirmer ce que vous dites, Laurence Pirousseau. Je reviendrai deux instants à Mme Dugas. Est-ce que vous avez des statistiques à la lumière de toutes celles qui sont diffusées dans l'enquête canadienne sur l'incapacité qui nous montrent la réalité du marché du travail ou de l'inclusion au travail?
On a le dernier volume, le volume 8, va documenter davantage justement la participation au marché du travail chez les personnes avec incapacité, comparé dans certains cas. On fait un peu, dans ce document-là, on présente un peu... certains obstacles que les personnes peuvent rencontrer, la situation qu'elles vivent sur le marché du travail, c'est sûr que ça ne va pas dans le détail. Le détail dont on parle ici, mais ça peut pister pour améliorer l'intervention, pour améliorer l'intégration des personnes handicapées au niveau du travail.
Bon, très bien. Écoutez, Laurence Pirousseau, Lucie Dugas, on va publier le lien de l'EPHQ qui pointe vers... nouvelles données, en fait, cette enquête. Donc, tout le monde qui nous écoutait, que vous soyez en situation d'handicap, que vous soyez intervenant, que vous vouliez faire de la défense de droit, on aura accès aux chiffres. J'aimerais revenir avec Laurence Pirousseau, qui s'occupe des étudiants au postsecondaire. Donc, le travail, c'est manifestement un problème. Est-ce qu'il y a eu, dans le dernier budget, des sommes là, qui venaient aider cette situation-là?
Qui venaient aider le travail?
Je sais pas, je vous dis ça comme ça. Donc, est-ce qu'il y a eu de l'argent de la part du gouvernement provincial, surtout de là, parce que c'est en général de là d'où viennent les programmes, qui pourraient aider les étudiants et étudiantes avec incapacité qui nous écoutent? Là?
vous avoue que je me suis plutôt penchée sur l'investissement de 600 millions en éducation.
OK. Ben, c'est un début.
Que sur l'emploi.
OK.
Je ne pourrais pas vous répondre clairement à la question.
Parfait.
Là.
Mais Laurence, donc, l'inclusion à l'école, ça va de mieux en mieux. Mais qu'en est-il alors des investissements en éducation pour les personnes avec incapacité?
On va se parler franchement.
Oui.
Les investissements de 600 millions, c'est un beau chiffre, 600 millions, mais si on regarde ce que le gouvernement a fait dans les dernières années, c'est-à-dire les coupures massives, on s'en rappelle tous, je pense, de plusieurs milliers de postes.
C'est des professionnels là, qui étaient directement reliés à l'inclusion. Là.
Exact, qui aidaient l'inclusion. On est vraiment loin du compte. Là, on parle de, si on va voir le budget en détail, là, 7200 nouveaux postes, nouvelles personnes pour aider à l'inclusion d'ici 5 ans. Et en fait, les autres, ils parlent pas toujours, on n'est toujours pas dans l'inclusion, là, on parle d'intégration.
Oui, c'est ça, voilà.
Donc déjà, il y a un bug, d'après moi. Ouais. On est dans la mauvaise voie, mais ça...
Mais les professeurs ont un peu peur du terme.
Ils ont un peu peur du terme, mais c'est parce qu'on leur explique pas bien.
Voilà.
Il n'y a personne qui prend le temps de les former. Mais on parle de 7200 postes d'ici 5 ans. C'est à peine plus que ce qui a été coupé.
Ah oui, c'est ça.
Donc, je vois pas...
On n'est pas en situation d'amélioration des ressources, là.
Non, on n'est pas en grande situation d'amélioration, là.
OK.
On est en fait, ils nous ont redonné l'argent qu'ils nous coupent depuis 3 ans.
Mm-hmm.
Ils nous redonnent l'argent qu'ils ont coupé.
Ah, voilà. Donc, c'est la stratégie. C'est un peu le cas en santé, sauf qu'en santé, on n'a pas remis autant qu'on avait enlevé, mais un peu moins. Bon, enfin, on lâche la polémique pour ça. Donc, écoutez, vous nous avez permis de faire parler un peu deux situations importantes pour les personnes avec incapacité, le travail, l'éducation. Écoutez, Lucie Dugas, conseillère experte à l'évaluation et la recherche à l'OPHQ, merci beaucoup.
Plaisir.
Et si on veut retrouver l'information sur l'enquête canadienne sur l'incapacité et d'autres ressources aussi, on se rend sur votre site. Est-ce que vous pouvez nous le mentionner?
Oui, c'est le site
www.ophq.gouv.qc.ca. Voilà, c'est un rendez-vous. Merci, Lucie Dugas. Laurence Pérousseau, bravo pour votre changement de nom.
Merci.
Donc, on rappelle que vous êtes directrice générale de l'Association québécoise pour l'équité et l'inclusion au poste secondaire. Et ici, on va avoir plus d'informations. On se rend où, Laurence Pérousseau?
On se rend sur notre site Internet au www.aqeps.qc.ca.
Donc, A, appelez-le ou long pour les gens là, qui ont à l'écrire.
www.aqueips.qc.ca.
Très bien. Merci beaucoup à vous deux. Puis on souhaite de meilleures statistiques, mais surtout de meilleures réalités pour les personnes avec incapacité.
Oui, je pense que c'est ça le principal.
Allons-y. Merci à vous.
Merci.